RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Bonjour à tous. Que les Belges, qui sont plus nombreux que les Français, enchaînent les victoires, d'accord. Que Poggi, le Slovène, écrase le Tour, ça passe. Mais que les Suisses, venus à 4 à Barcelone, réussissent à remporter une étape avant l'un des 30 Français, avouez que c'est aussi difficile à croire que le choléra est une tarte aux légumes dans le Valais. Et pourtant, c'est vrai, 13 étapes et toujours pas de victoire nationale. Voilà une source d'inquiétude, alors que les occasions se comptent sur les doigts de la main de Django Reinhardt, le guitariste qui n'en avait plus que 3 des doigts. De quoi faire trembler nos consultants Jérôme Pinault et Jérôme Coppel, qui sont là chaque année quand les journalistes commencent à leur dire « Et si on n'avait pas de victoire française pour la première fois au 20e siècle, 21e siècle ?» Ils tremblent, on verra leur réponse dans quelques instants. On évoquera également la promenade annoncée de l'équipe UAE et de Tadej Pogacar demain au Markstein et la veillée d'armes du leader de l'équipe Décathlon CMA-CGM, Paul Seixas. On est à l'heure suisse, c'est l'after et on revit tout de suite la journée entre Dole et Belfort.
Aujourd'hui, au programme, le ballon d'Alsace qui va intervenir très tard dans l'étape et c'est la raison pour laquelle ça castagne depuis que le départ a été donné tout à l'heure de Dole en direction donc de Belfort. C'est la 13e étape, c'est aussi la plus longue de ce Tour de France, 205 km et avant d'attaquer la montagne demain, ça va faire drôle. Avec Jean-François, avec Jean-Marc. Avec Jean-Marc, pas avec Jean-François. Oh là 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 là. Tout va mal. 127 km 300 d'arrivée. Le top course. Pierre-Yves.
Alors, on va essayer de refaire le point. Ça va pas être simple. Alors, je pense qu'il y a des coureurs qui sont devant et d'autres qui sont derrière.
Le sprint, on le suit 400 mètres encore avant le passage sur la ligne du sprint intermédiaire. Et
Jasper Philipsen qui passe troisième. En tête devant Girmay et Mats Pedersen.
GG, à 1 km du sommet comme ça, t'es dans ce groupe, tu te mets où?
Dans la roue de Pidcock.
Ah oui. Et regardez Pidcock où il est. Il n'y a dernier. Personne dans la roue. Si l'anglais déboule à 250 mètres, voilà.
Il démarre, Tom Pidcock. Tu voyais, il était dernier et maintenant il est premier. 650 mètres encore d'ascension. On voit Maxime Van Gils et Kevin Vauclin qui s'accrochent. Il ne fait pas le trou, Tom Pidcock, avant la descente. Il a tenté quelque chose. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et attention, le sprint est lancé avec Pidcock, avec Wellens derrière. Ça va jouer entre Mauro Schmidt et Terada sur la ligne. Il ne va rien y avoir. Et c'est Mauro Schmidt qui s'impose devant Terada. Victoire suisse. Il est tout près de son pays ici à Belfort. Et derrière, eh bien, les garçons qui étaient dans l'échappée vont mourir à 3-4 secondes. La victoire de l'équipe Jayco. Voilà, on a eu de la tristesse, vous l'aurez compris, pour les coureurs français à l'arrivée, mais on a eu de la joie dans cet après-midi aussi. On ne s'est pas ennuyé, ça a été une très belle étape. Malheureusement, ça ne se termine pas par une victoire française. Autour de la table de l'After Tour, honneur aux dames, salut Maria Azé.
Salut Pierre-Yves, salut tout le monde.
Tout va bien après ta journée
On
va dire à un climat tout à fait raisonnable aujourd'hui.
Au sec, les orages et les averses étaient derrière moi. Plus voilà. J'avançais, plus les orages avançaient. C'était voilà. Excellent.
Une température correcte.
28-29, on était là, bien.
C'était une belle journée pour les suiveurs du Tour de France. Christophe Cessieux est en pleine forme, il est là.
Christian Cessieux.
Ne recommence pas, sinon on va repartir. Salut Christophe. Et nos GG sont là. Grande gueule, Jérôme, Pinault et Coppel. Monsieur Coppel, bonsoir.
Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à tous.
Monsieur Pinault, bonsoir.
Bonsoir Pierre-Yves.
Merci à tous les deux d'avoir mis de la bonne humeur dans cet après-midi parce que ça ne s'est pas très très bien terminé pour les coureurs français. On viendra dans quelques instants sur le vainqueur, évidemment, le Suisse à l'heure. Pas Marco, mais Mauro Schmidt qui a réussi à s'imposer. Mais forcément, nous, on a tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et nos Français, Vauclin, Jegat, Braz Afonso se classent 6e, 7e et 8e. C'est bien ça, Christophe, si on refait le point des classements. Malheureusement, eh bien, on n'a pas de Français qui a réussi à lever les bras aujourd'hui. Et pourtant, on y a cru parce que franchement, ces trois-là, on peut le dire, étaient plutôt bien. Surtout Kevin Vauclin et Jordan Jegat. Et à l'arrivée, c'est donc Mauro Schmidt qui s'impose.
Exactement, car Mauro Schmid, avec, accompagné de Terada, a réussi à fausser compagnie à son ancien groupe d'échappée. Derrière, ça s'est regardé un peu trop longtemps et les deux hommes ont parfaitement collaboré jusqu'à la flamme rouge. Où après, ça s'est un peu compliqué, tant et si bien que le groupe est arrivé très près des deux hommes de tête, mais n'a pas réussi à les passer sur la ligne. Mauro Schmid qui s'impose devant Harold Terada. Le troisième de l'étape, celui qui fait la plus belle opération au classement général, c'est Tom Pidcock, puisqu'il remonte au quatrième rang du classement général. Van Giel, c'est quatrième. Le premier français, c'est donc Vauquelin. Et les Français se suivent. Vauquelin, Jegat, Braz Afonso qui arrive dans cet ordre-là. Le peloton maillot jaune qui est arrivé bien plus tard avec un retard conséquent.
7:35 par là.
Exactement. 7 minutes 32, très exactement. Et donc, évidemment, au classement général, il y a quelques petits changements. Alors, non, pas pour Tadej Pogacar, rassurez-vous, il reste en jaune.
Pas pour le podium, et derrière,
pas pour le podium, mais juste derrière, effectivement. Pogacar, Vingegaard, Van der Poel, c'est toujours le podium de ce Tour de France. Pidcock est quatrième. Sexas, lui, perd une place, il est sixième. Et puis, belle progression également de Jordan Zegat, même s'il n'a pas la victoire d'étape. Au moins, il se console avec là aussi une belle remontée au classement général. Il est ce soir onzième, juste derrière Lenny Martinez.
Bon, on a rendu hommage aux Belges ces derniers jours. On ne va pas faire une émission sur la Suisse, mais on va quand même rendre hommage à Mauro Schmid, vainqueur aujourd'hui. Il a très bien couru.
C'est un travail d'équipe aujourd'hui. Je pense qu'au final, c'est moi qui ai la chance d'être au sommet, mais c'est toute une équipe, tout le monde dans les coulisses qui a travaillé si dur pour ça. Donc je pense que c'est vraiment une victoire pour l'équipe et pas vraiment pour moi. C'était incroyable parce que j'avais un peu peur que l'ascension soit trop difficile pour moi. Au début, je ne suis pas sûr de pouvoir arriver en haut comme ça. Et puis je pense que pour moi, c'était plutôt bien que ce soit un peu comme stop and go. Donc ça me convient mieux. Donc j'étais en gros dans la première partie de la descente, juste pour m'assurer que je ne me fasse pas lâcher et essayer de ralentir un peu. Et puis oui, j'ai juste essayé une fois et je me suis enfui.
Et c'est sûr que dans ces conditions-là, Jérôme Coppel, on n'a souvent pas beaucoup d'occasions. Il a mis la bonne et c'était le bon moment. En facteur, on l'a dit dans le direct, ce n'était pas une grosse attaque. Mais finalement, ça a hésité. Il n'y a que Terada qui a pris la roue. Et puis surtout, c'était une victoire d'équipe. Ils étaient nombreux dans ce gros groupe. Ils étaient 57 à un moment.
Oui, ils étaient 57. Eux, l'équipe Jeco Alula était 4. Ils avaient surtout Michael Matthews. Et on a vu dans le ballon d'Alsace que O'Connor et Plap, notamment, roulaient, mais un peu sur un faux train pour essayer de garder Michael Matthews dans le groupe, dans le premier groupe, ou en tout cas de le faire basculer pas trop loin des premiers si jamais il venait à se faire lâcher en haut du col. Il a été lâché, Michael Matthews, mais il bascule pas très loin à 30 secondes. Mais dans le premier groupe, il y avait encore Plap et Mauro Schmid, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques grosses attaques, notamment de Pidcock. Lui, il n'a pas mis une grosse attaque, tu l'as dit, un peu en facteur. Là, il a attendu, ça a castagné un peu sur la droite de la route. Et il n'y a que Terada qui a réussi à le suivre. Des fois, ce n'est pas les attaques les plus tranchantes ou les plus attendues qui fonctionnent. Mais ce qui a fonctionné surtout pour le Suisse, c'est qu'il était avec Terada, qu'il a tout de suite relayé. Et là, ça leur a permis de faire le trou. Et derrière, c'est vraiment là où le côté collectif rentre en jeu, c'est que Plap, derrière, lui, il allait chercher toutes les tentatives d'attaque et de contre. Et ça, au bout d'un moment, ça a désorganisé le groupe aussi et ça a permis aux deux hommes de tête de prendre un petit peu d'avance. Ensuite, ils ont un peu joué quand même avec le feu dans le final parce qu'au kilomètre, ils avaient 15 secondes d'avance et ils gagnent avec seulement 2 secondes d'avance. Ils se sont vraiment regardés. Mais le Suisse, qui avait fait deuxième l'année dernière d'une étape derrière Abrahamsen à Toulouse, là, il ne voulait pas la laisser passer. Ça ne s'est pas joué de grand-chose quand même avec Terada. Mais c'est bon pour le Suisse. Et moi, je suis à moitié vainqueur coup aujourd'hui.
C'est vrai. Et Jérôme Pinault, il y a cette équipe, Jaïco. Avant qu'on parle des Français, il y a Tom Pidcock qui aurait pu être le grand vainqueur, qui était aussi l'un des favoris de cette journée. Il y avait cette fameuse descente du ballon d'Alsace. Il est vainqueur ou il n'est pas vainqueur aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a gagné?
Il est l'homme de la journée. Il est l'homme de la journée parce qu'il a fait travailler son équipe, parce qu'il a été audacieux de se mettre dans cette échappée, parce qu'il a bien fait rouler ses équipiers. Et ensuite, il a quand même très, très bien géré sa montée, où il a été le plus fort physiquement dans la montée. Derrière, dans le final, il se fait piéger parce qu'il affiche sa supériorité dans la montée. Les coureurs qui sont avec lui courent en fonction de ce qu'il va faire. On le voit dans les réactions des coureurs. Il essaye sur le sommet du ballon d'Alsace de sortir pour faire cette descente plein badin. Il n'arrive pas à les sortir. Au final, il ne gagne pas l'étape. Il reprend du temps, mais à quel prix ? Il a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur la route. Alors, c'est un grand coureur, un grand talent. Mais je pense que la facture, il va la payer d'ici un ou deux jours. Il attaque un week-end très difficile. On l'a vu quelque peu en difficulté dans les ascensions, notamment sur le Tourmalet. Alors, l'autre jour, il est tombé au Luron. Mais franchement,
il ne peut pas lutter avec Remco pour le classement général.
Bah moi, je pense qu'il ne peut pas lutter. Alors, personne ne peut lutter avec, avec Pogacar. Il ne luttera pas avec Vingegaard. Il ne luttera pas avec Remco. Très difficilement avec Ayuso. Et encore, encore difficile de lutter avec Paul Sexas.
Et Lipovic ?
Et Lipovic.
Voilà. Et Del Toro ?
Ça fait beaucoup. Et Del Toro, peut-être.
Alors, ça fait beaucoup. Ouais. Et il a repris du temps à ces garçons-là. Vaut mieux avoir du temps d'avance que de retard. Mais dans la gestion de son Tour de France, aujourd'hui, il a grillé beaucoup de cartouches. Et malheureusement pour lui, il n'a pas gagné l'étape. Je pense que ça peut être beaucoup de cartouches pour pas grand-chose, finalement.
Les Français, on le disait, 6, 7, 8, parmi ces trois garçons. Et donc, il y avait Clément Brazafonso et Jordan Jegat. Et il y avait Kevin Vauclin qui raconte cette fin d'étape.
On était là. Non, après, c'est un fait de course. Voilà, il y avait un surnom avec, avec Luc Plap et Mauro Schmidt. Ils ont réussi à très bien jouer. Bon, c'est parti. Et ouais, on s'est un peu enterré. Je pense qu'en fait, d'avoir deux UAE nous a un peu mis le bordel, tout simplement. Et ça a été compliqué de manager dans le final. J'ai essayé tout ça, mais bon, voilà, tout le monde regardait un peu Tom Pidcock, hein, parce que c'est pour le classement général. C'était pas facile à gérer comme final.
Pas facile à gérer, certainement, pour les Français qui, contrairement au Jayco, n'avaient pas forcément plusieurs équipiers pour les aider. Néanmoins, après 13 étapes, il n'y a pas de victoire française. Maria, est-ce que ça commence un peu à parler dans ces équipes françaises et à se dire, est-ce qu'on va y arriver ?
Ça commence forcément, plus on se rapproche de la fin, plus c'est difficile. Hein. On y a cru jusqu'au bout aujourd'hui, tu le disais, avec trois Français devant, Kevin Vauclin, Jordan Jegat et Clément Brazafonso. Au final, donc, c'est Mauro Schmidt qui s'impose. On arrive dans la dernière semaine et on commence à se demander, oui, évidemment, si les Français peuvent terminer le Tour de France sans victoire d'étape. Après l'étape du jour, Jordan Jegat qui termine 7e, lui est arrivé plutôt motivé.
Il y a encore des belles journées, c'est enfin une échappée qui va au bout et ça renforce pour la suite. Ouais.
Ça renforce pour la suite, mais le problème c'est qu'il ne reste plus beaucoup d'opportunités, 2-3 étapes au maximum, ou alors il faudra s'imposer au sommet de l'Alpe d'Huez ou du plateau de Solaison, du Markstein. Enfin, autant dire que ce n'est pas gagné, sauf avec un Sexas des grands jours et un Pogacar des petits jours. Donc on va dire qu'il reste 2 étapes ou 3, l'arrivée à Voiron, celle à Orcières-Merlette ou alors l'arrivée à Paris, mais on imagine bien un Mathieu Van Der Poel ou un Tadej Pogacar vouloir s'imposer là-bas. Donc voilà, ce n'est pas impossible qu'aucun Français ne gagne une étape sur le Tour cette année. C'est quand même une tâche difficile pour le manager de Total Energy, Jean-René Bernodeau.
Il y en a de moins en moins, puisqu'on est battu par les Belges, mais on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Quand j'étais coureur, le mur de Berlin n'était pas tombé. Voilà, il y avait un Américain, Jonathan Boyer, un Australien, Phil Anderson. Donc voilà, rien n'est comparable. Donc aujourd'hui, si les Français gagnent 2 étapes à Paris, je pense que ça sera un joli tour pour les Français statistiquement.
C'est arrivé seulement 2 fois dans l'histoire, Pierre-Yves, tu le disais, du Tour de France 1926-1999. Donc autant vous dire que ça date. Alors là, il y a quand même une petite consolation, c'est Paul Sexas, évidemment, qui aura du mal à jouer la victoire d'étape, mais qui est encore un candidat très sérieux au podium sur le Tour de France.
Merci Maria. Jérôme Coppel, je sais qu'il y a 2 questions dont tu raffoles. C'est est-ce qu'un Français va gagner le 14 juillet ?
Voilà.
Et la deuxième question, c'est est-ce qu'aucun Français ne va s'imposer cette année ? Non mais tu commences à te dire, c'est possible ?
C'est possible, mais je retiens que Valentin Paré-Pinte a gagné la 16e étape l'année dernière. On arrive toujours, c'est arrivé que 2 fois dans l'histoire, Maria l'a dit, donc on arrive toujours à en gagner au moins une. Moi, j'étais sur le Tour de France 2013 quand Christophe Riblon gagne à l'Alpe d'Huez la 18e étape, je pense. Cette question, elle revenait tous les matins au paddock. Oui, ça nous mettait la pression. Je comprends que les journalistes posent cette question. Nous, ça nous rajoute de la pression. Ça ne nous aide pas forcément non plus. Si les Français avaient pu gagner avant, ils l'auraient fait. Ce ne serait pas privé, bien sûr. Mais je comprends que terminer un Tour de France sans gagner d'étape pour une nation comme la France, pour le Tour de France, ça peut faire tâche. Ça va être très, très compliqué. Mais Maria l'a dit, Jean-René Bernodeau disait 2 victoires d'étape. Je le trouve quand même bien optimiste pour le coup. Si on en a une, ça sera déjà pas mal, je pense. Après, je vais encore me répéter encore une fois, mais c'est de nouveau Tadej Pogacar et UAE qui vont avoir les clés et des victoires françaises aussi, parce qu'il va falloir qu'ils en laissent un petit
cadeaux.
Peu. Quoi. Et
ouais.
Alors, ce qui est inquiétant, ce qui est surprenant, c'est que, à la différence des années précédentes, on a fait les coureurs français ont fait un début de saison incroyable avec les victoires évidemment de Paul Sexas
en World Tour,
les victoires d'étape incroyable de Paul Magnier, qui malheureusement n'est pas présent sur le Tour de France, sur le Giro. On a eu aussi Alex Baudin, on a eu Dorian Godon, qui s'est imposé à plusieurs reprises, mais qui là s'est blessé hier, et qui a vécu une journée terrible aujourd'hui. Voilà, mais il n'y a pas non plus 50 000 mecs qui sont capables de gagner des grandes épreuves comme
Romain
ça.
Grégoire,
et là, sur le, Romain Grégoire, c'est un peu la déception. Kevin Vauclin, c'était un peu la déception jusqu'à aujourd'hui. Bon, il ne s'impose pas, mais il a quand même été l'un des acteurs prépondérants de l'étape du jour. Après, il y en a
Lenny
pas 50.
Martinez.
Lenny Martinez, il joue pour l'instant général. Voilà. Et puis, on n'est pas, pas encore sur son terrain.
Étape
on y arrive 13, demain. Hein,
donc, aujourd'hui, c'est étape 13. Pour moi, c'est la première défaite des Français dans le Tour.
Alors,
avant, il n'y avait pas la place.
Jérôme Pinault, comment aujourd'hui les Français pouvaient gagner? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner aujourd'hui?
Alors, je peux finir ce que je disais juste. Jusque-là, il y a eu Pogacar, Vingegaard, Del Toro, Merlier. On n'a personne dans les sprints et Olaf Koy. Une équipe française a gagné. On a mis des Français au service d'un Hollandais. Pour eux, c'est une victoire d'étape quand même de gagner. Aujourd'hui, première situation pour gagner une étape. C'est tout. Avant, on n'a pas de Pogacar, on n'a pas de Del Toro, on en a un au-dessus de Del Toro, mais il est dans la meilleure équipe du monde. Des Vingegaard, on savait qu'on n'allait pas gagner le chrono. Et on n'a personne au sprint. Notre meilleur sprinter, il est en stage dans les Alpes pour préparer la deuxième partie de saison. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, il y avait une opportunité. Est-ce qu'on peut demander à nos Français, qui sont dans une équipe anglaise, dans une équipe française, et dans deux équipes françaises, de s'allier pour gagner une étape? On ne peut pas leur demander ça. Surtout pas la 13e étape. Imaginez Vauclin qui fasse un relais de malade pour que Jegat puisse gicler dans le groupe de tête. Et Jegat gagne. Mais ce soir, Vauclin, il prend une bastose par son équipe parce qu'il a fait le boulot par un autre.
On n'est pas au championnat du monde.
On n'est pas au championnat du monde. On ne court pas par équipe. Mais attention.
Mais ils ne sont pas courus dessus non plus.
Ils ne sont pas courus dessus. Il y a eu quelques réflexes, mais c'est normal.
Ils sont, à un moment même, non, mais on les a vus partir tous les deux.
On y a cru quelques instants.
On peut comprendre un peu les réflexes de certains. Ce n'est pas, bon, c'est pas des bons réflexes, mais on connaît l'autre. C'est-à-dire que Vauclin, il est, certes, cette année, il est chez Net Company, mais on a couru avec Vauclin. Jordan Jegat connaît par cœur Vauclin. Et quand Vauclin attaque, Jegat sait combien de temps il va rester en danseuse, sait quand il va se rasseoir. On a des réflexes comme ça, on a des repères dans le peloton. Alors, ils ne sont pas courus dessus, ils ne sont pas facilités la tâche non plus. Mais attention, on arrive dans des étapes où là, on a, je pense, 3-4 cartes pour gagner des étapes. On les a, nos cartes. Et on les a, les étapes qui arrivent. On parle d'Alex Baudin, on parle de Lenny Martinez. Et puis, je ne suis pas d'accord avec Maria, on parle aussi de Paul Sexas, parce que Paul, un jour, peut avoir une situation qui s'ouvre et gagner, parce que si tout se passe comme il faut, demain et après-demain, Paul, il est à 10 minutes au général dimanche.
Ah bah, c'est optimiste, ça.
Bah, non, mais parce que Pogacar...
Mais c'est le dernier clou sur le cercueil des ambitions françaises.
Il sera peut-être au contact des autres, mais Pogacar, il a déjà 3 minutes d'avance sur le deuxième. Pogacar...
Mais lui, il ne laissera pas une victoire d'étape, Pogacar.
Bah, pas laisser, mais il ne pourra pas courir après tout le monde. Et je pense qu'à un moment donné, il pourra aussi se dire « Bon, cette semaine, on va rester tranquille. » Donc, nos meilleures chances, elles arrivent. Est-ce qu'on va gagner? J'en sais rien, mais c'est la seule étape aujourd'hui qu'on a perdue.
Jérôme Coppel, elles sont où les chances françaises, précisément? Si on regarde le week-end qui vient et les 6 étapes de la semaine prochaine, il y a Voiron.
Alors, bah, ça dépend pour quel profil de coureur. Parce que Valentin Paré-Pinte,
moi, je prends tout, hein,
bah, Valentin Paré-Pinte qui a gagné l'année dernière, bah, à partir de demain, de Solaison, l'Alpe d'Huez, toutes celles que tu veux, à part Voiron pour Valentin Paré-Pinte et le chrono, bien sûr. Paul Sexas, je suis d'accord avec Gégé. Suivant la situation, suivant comment ça se passe, c'est pas impossible qu'il aille en chercher une.
Sachant que Paul est une bonne pointe de vitesse aussi. Notamment dans les sommets, les arrivées au sommet, il a encore du punch.
Après, c'est plus des coureurs comme Alex Baudin qui vont être un peu coincés, par exemple, parce que doivent aller dans un coup pour gagner l'étape. Mais on ne sait jamais ce que va faire l'UAE et Tadej Pogacar. Parce que s'il décide de gagner encore 3 ou 4 étapes, bah, un profil comme Alex Baudin, d'un coup, tu lui divises ses chances par 2 ou par 3 d'aller gagner des étapes. Donc, ça va être compliqué d'aller en gagner une. Mais
Voiron, Orcières, c'est les deux. C'est
mais Voiron, ouais. Mais Voiron, il faut un mec qui grimpe à peu près bien, parce que le départ est costaud. Et qui a une bonne pointe de vitesse. Et ça,
c'est le cas de Valentin.
Ouais, attention. Et moi, Voiron, je vois un peu un profil comme
Michael Matthews.
Un Matthews, voire Pedersen, un peu comme l'étape de Foix. Elle est un peu plus dure au départ, mais après, c'est beaucoup plus long. Les sprinteurs, les purs sprinteurs, vont sauter avant. Lidl Trek, s'ils se remettent un peu la tête à l'endroit et qu'ils recourent comme ils ont fait à Foix, c'est typiquement l'étape qui leur convient parfaitement. C'est peut-être une des dernières chances de Mats Pedersen. Donc, il y a beaucoup de. En fait, les scénarios, c'est dur à dire. C'est très dur à dire. Typiquement, l'Alpe d'Huez, moi, si je suis Tadej Pogacar, il y en a deux, mais il y en a au moins une où je vais laisser une échappée se faire. Et là, on a nos chances côté français. Mais je ne suis pas Tadej Pogacar, et Tadej Pogacar, il veut toutes les gagner.
Et Grégoire, à Paris, la dernière étape,
Bah, par exemple, ouais, t'as raison. Ouais.
Le problème, c'est qu'il faut des jambes.
Hein. C'était le nom du maire. Hein. Non,
mais le problème, c'est qu'il faut des jambes pour ça. Aujourd'houri, par exemple.
Pas les jambes.
Ils ont bien couru, ils marchent mieux. Mais Romain n'a pas les cannes, il pète trop tôt par rapport à des garçons qui sont restés plus longtemps dans ce groupe de tête. Mais ça peut revenir. Le bon message, c'est Kevin Vauclin qui était quand même à côté de ses baskets et de son vélo en début de tour et qui aujourd'hui va beaucoup mieux. Si Kevin a encore le niveau et qu'il continue à progresser, bah, il a aussi dans les pattes une étape comme Voiron ou une étape comme Marcière Merlette.
Soyons raisonnables. Combien de victoires françaises sur ce tour?
Une seule.
Deux.
Combien de
victoires françaises?
Il y en aura une au maximum.
Une seule. Oh, une, ouais. Aussi.
Moi, je dis deux.
Donc, très bien. Toi, t'es un éternel.
Optimiste. Plutôt d'accord. Non, moi, je pense que...
Tu mettrais ta maison à la boule là, sur deux victoires françaises.
Oh, c'est pour la mienne. Hein. Valoche avec gueule, mais c'est pour la mienne. Non, je pense que Valentin Paré-Peintre peut gagner une étape aujourd'hui. Il a essayé une ou deux fois, mais ce n'était pas son étape aujourd'hui. Je pense qu'il, vu la force qu'il a montré hier, il a une étape dans les jambes. Et je reste persuadé que Paul Sexas va gagner une étape.
Maria, le souci, c'est presque Lenny Martinez. On se dit, lui, il est tout à fait capable de gagner une étape.
Il est fort, il est très fort. Mais le problème, c'est qu'il est coincé entre classement général, maillot à poids et victoire d'étape. À un moment, il va falloir qu'il fasse un choix.
On va voir, alors, peut-être demain.
Peut-être que dès demain, ça va être réglé. Mais dans son équipe, j'ai discuté avec eux, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ils veulent. Hein. C'est que limite, ils sont un peu. Bah, qu'ils décrochent, mais lui, il n'a pas envie.
Ah bah non. Là, il y a un truc qui va pas. Ils ont fait quoi aujourd'hui alors? Ils veulent qu'ils décrochent, ils roulent derrière. En plus, quand ils roulent, ils vont moins vite que
devant. Mais quand on parle, parce que Lenny Martinez veut garder le classement général, mais dans son équipe, vu le collectif qu'il a, on préférerait qu'il aille jouer pour le maillot à poids ou pour la victoire d'étape. Je pense qu'on a plus de chance
plutôt qu'un mauvais
top 15 au classement général.
Je suis d'accord avec toi. Il se retrouve tout seul de son équipe à 100 km de l'arrivée sur des étapes dures, mais pas non plus des étapes de très haute montagne. Là, après, ils disent on aimerait qu'il décroche. Il n'y a rien de plus facile que de décrocher au classement général. Et si tu fais ça, tu ne fais pas rouler ton équipe aujourd'hui parce qu'il y a Tom Pidcock qui va prendre ta place au classement général. Il y a un décalage entre le discours et les actes.
Il aurait pu être dans l'échappée aussi, Lenny, aujourd'hui. Hein. Puisqu'on a laissé faire Pidcock, laissé faire Lenny. Donc on aurait pu.
Après, ils n'auraient pas eu à rouler derrière.
Après, il se réserve plutôt pour ce week-end. Ce week-end, ça lui correspond quand même plus.
Lenny a des belles opportunités encore, mais c'est sûr qu'on l'a vu aujourd'hui, ce classement général. Les garçons qui sont 8-9e, ils n'intéressent pas Tadej et UAE. Donc, il aurait pu y aller. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir y aller. Oui. Je pense qu'un profil comme demain et après-demain correspond beaucoup mieux à Lenny, qui est très fort dans ce Tour de France, qu'aujourd'hui. Donc, moi, je pense que Pidcock, aujourd'hui, a léché les cartouches. Les Français, pour les victoires d'étape, ont perdu cette étape, certes, mais n'oublions pas la course qu'ils ont fait aujourd'hui. Et moi, je vous le dis à vous, parce que nous, on est consultants et vous, messieurs, dames, journalistes. Si on a vous préférez quoi? Qu'on gagne une étape comme celle d'aujourd'hui et que Paul éclate comme un pop-corn et fasse 15e du général, ou que Paul soit sur le podium et qu'on n'ait pas gagné d'étape?
Non, moi, je préfère qu'on ait gagné une étape.
Eh bien, pas moi.
Puisque Jérôme Coppel pense que, de toute façon, un tour réussi pour Paul Sexas, même s'il est 150e, donc il n'y a pas de souci. T'es d'accord?
Je maintiens toujours ça.
On préfère une victoire d'étape.
Je ne peux pas finir mon explication, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout.
On peut avoir en plus une victoire d'étape de Paul Sexas, c'est super.
Bien sûr, exactement. Tant qu'il finit
le temps d'aller à la fin de ton explication.
En revanche, s'il finit 150e et qu'on n'a pas de victoire d'étape française, faire des ordres.
C'est autre chose, c'est un autre délire. Mais l'objectif premier de Paul Sexas, c'est de terminer le Tour de France.
Ouais. Voilà. S'il peut claquer une victoire, c'est encore mieux.
Bien sûr.
Mais vu les cadres qu'il a,
c'est encore mieux.
Il sera pas loin. On en reparlera tout à l'heure avec Léna, mais il y a de la confiance très certainement dans cette équipe Décathlon CMA CGM.
C'est surtout que si je fais très court, s'il finit ce tour dans les 5 premiers ou 4 premiers ou sur le podium, on finira pas sur cette place parce que Romain l'a déjà fait, Romain Bardet, Thibaut aussi. Mais à 19 pieds,
pas à 19
sur le podium du tour, c'est qu'il nous laisse la promesse qu'il va le gagner dans pas longtemps. Mmh. Et c'est ça qui va nous laisser 13 en haut et on sera pressé d'y être l'année prochaine.
Il pourrait le gagner dans pas longtemps. Parce que je vous fais
si
une petite Poggi comparaison.
Si Poggi prend sa retraite avant 30 ans.
Christophe, je vous fais juste une comparaison. Hein. À 20 ans, on annonçait 6 ballons d'or pour Mbappé. On attend toujours. Hein. Donc méfions-nous quand même des
dans un sport collectif, c'est pas tout à fait la même chose. Il a quand même il a été champion du monde à 21.
Là où je te rejoins, c'est que Egan Bernal,
exactement.
Il y a des circonstances avec Egan Bernal. Ouais,
il n'a pas pris le bus.
Non, mais d'autres coups, Evenepoel, on lui a annoncé un Tour de France. Il n'a jamais en gagné un, par exemple.
Et on a annoncé les médailles d'or pour Léon Marchand, il les a eues. Donc tu vois, il faut regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, comme tu le fais depuis longtemps.
Et Wemby, Wembanyama devait être MVP, il n'a pas été. Son équipe n'aurait jamais dû faire la finale et ils ont fait la finale NBA. Donc tout va bien.
Il y a un Français.
Et d'un pessimisme.
Non, mais il est terrible.
Non, regarde, je vais rendre hommage à un Français qui a vécu une journée très, très, très difficile. Ah oui. On va l'écouter. C'est Dorian Godon, parce que lui, ça fait aussi partie des garçons qui auraient pu s'imposer sur Tour de France. Mais là, il a vécu une journée terrible après sa chute hier dans le sprint final. On l'écoute, Dorian Godon.
C'est souvent dans les derniers à galérer. Je ne pouvais pas trop mettre en danseuse avec le mal de dos. Et au final, ouais. C'est juste la galère et puis j'attendais juste de péter pour finir le groupetto. Même dans le groupetto, il roulait plus trop vite pour moi. Donc non, mais j'ai pu m'accrocher. Puis on verra déjà faire une bonne nuit. Puis on verra au jour le jour. Je ne m'étais pas mis de limite, mais ce matin, j'ai mis 10 minutes à me lever de mon lit tellement que je ne peux pas trop bouger et tout. Donc j'ai essayé de rester fixe sur le vélo et pas trop bouger. Mais j'ai un peu galéré.
Quand on sait que c'est souvent le surlendemain qu'on souffre le plus, Jérôme, tu lui annonces une journée de demain encore très, très difficile à Dorian Godon.
Oui, très, très difficile, surtout quand il dit qu'il ne peut pas se mettre en danseuse. Alors aujourd'hui, il y avait 150 km quasiment plat. Ça a roulé à 53 de moyenne quand même, mais tu n'as pas trop besoin, surtout avec son gabarit, de te mettre en danseuse. Mais demain, ça monte, ça descend, c'est des cols longs. Si tu ne te mets pas en danseuse, tu es mort. Donc ça va être très, très compliqué pour Dorian Godon. Comme il le dit, j'espère passer une bonne nuit parce que c'est dans la récup qu'on guérit aussi. Mais
il fait moins chaud,
mais il s'attend à une journée galère demain. Et l'avantage, c'est que demain, ça va partir assez dur, assez vite. Peut-être que le groupetto va se créer très, très vite. Mais il vient de le dire, hein, même dans le groupetto, ça roulait trop vite aujourd'hui.
Il va falloir surveiller les délais. Est-ce que demain, c'est une journée justement à risque pour les délais
Parce qu'elle ne fait que 155 km. Donc, il faut que ça roule vite. Plus ça roule vite, plus les délais sont grands.
Plus
c'est
vite
calculé.
Tu pètes, mais plus les délais.
Les délais sont calculés sur la vitesse moyenne, mais qui dit étape courte dit un temps de course plus court, donc des délais plus courts.
S'il nous entend, j'espère qu'il va nous entendre, parce que moi j'ai juste un truc à lui dire, c'est que généralement hier, là aujourd'hui il se plaint du dos. Si c'est une plaie, ça passe. Si c'est un mal de genou, ça passe jamais. Si c'est le dos, c'est quoi? C'est le choc. Hier il a eu un accident, c'est pas une chute, c'est un accident. Il a eu très mal aujourd'hui. Donc aujourd'hui il a eu mal. Demain il aura plus mal. Mais il sera à plat, il n'aura plus d'énergie parce que le corps va bosser, parce que c'est musculaire, il y a une contraction. Quand il chute, on se contracte, on se crispe. Et après-demain, c'est la journée où il va commencer à revivre. Alors il va revivre à Solaison. Il faut qu'il survive et après il y a la journée de repos. C'est peut-être dans son malheur une des bonnes nouvelles.
Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, de souffrir comme il va souffrir dans les deux jours à venir, alors que ce garçon, s'il se requinque peut-être chez lui, reprendre l'entraînement dans quelques jours, peut aller chercher d'autres victoires sur d'autres courses. Là, qu'est-ce qu'il peut espérer sur ce Tour de France de toute manière? On arrive dans la montagne, c'est pas pour lui, il est cassé de partout. Qu'est-ce qu'il peut espérer à part finir le Tour de France?
Ou gagner sur les champs.
Finir le Tour de France,
champs, dans on sait semaine, jamais.
Mais vous rendez pas compte de ce que veut dire dans la tête d'un coureur?
Vous êtes des forçats de
la route.
Mais d'accord, mais à un moment, il faut aussi prendre soin de sa santé, quoi. Le mec, il est cassé de partout.
T'arriveras jamais à faire descendre un coureur de son vélo et à abandonner le tour s'il n'est pas à moitié mort. Lui, il le dit. J'ai passé 10 minutes à me lever de mon lit. Il s'est enfilé une étape où les 160 premiers kills sont courus à 53 de moyenne. C'est mort. Il va s'accrocher jusqu'où il peut aller. Mais c'est ce que je disais hier dans mon carton. C'est le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. Déjà, quand t'as rien du tout, quand t'es dans l'état comme il est là, c'est encore moins bon pour la santé. Mais il va pas vouloir arrêter quand même. Il va vouloir aider Vauclin, il va vouloir aider Egan Bernal, il va vouloir aider son équipe. Faut pas oublier qu'il arrive aussi dans cette équipe-là. Et simplement, un coureur cycliste du Tour de France, peu importe son état, tant qu'il peut pédaler, il n'arrêtera pas.
Regarde l'exemple de William Saliba, un exemple avec le foot. William Saliba, le défenseur de l'équipe de France, qui a joué avec une fracture au dos. Aujourd'hui, il va être arrêté pendant 5 mois parce qu'il s'est peut-être pas arrêté à temps. Peut-être que s'il n'avait pas disputé cette Coupe du Monde, alors lui aussi, c'est comme un Tour de France, il voulait à tout prix la disputer.
Attention, je t'ai pas dit que c'était intelligent.
Ouais, non.
Moi, je parlais de ma chute en 2013. Il n'y a rien d'intelligent. Déjà, si les cyclistes étaient intelligents, on ne ferait pas de vélo. C'est beaucoup trop dur pour gagner des cacahuètes. Donc, on ne ferait déjà pas ça. Donc, si on fait du vélo, c'est déjà qu'on est un peu teubé.
C'est ringard cet après-midi, voilà. Teubé ce soir.
Saliba, pareil. Je veux dire, c'est pour le collectif qui met sa santé en danger. Ouais. Et on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite
rêve
de sa carrière non plus.
Son rêve de gosse.
Ouais. Mais moi, j'ai fait ça et ce n'était pas mon rêve de gosse.
Bien sûr. Mais je comprends que tu as envie de le faire. Mais c'est ce que je disais hier, c'est peut-être aux médecins de leur dire, les gars, c'est pas la peine là. Tu vas te fracasser, tu vas mettre des mois et des mois pour récupérer.
Ils lui ont dit. Mais c'est peine perdue.
Tu commentes le rugby toute l'année, Christophe. tous les rugbymen savent que c'est, ça fait des,
c'est mauvais pour
ça fait des mauvais vieux. Ouais. Ils vont se péter. Tu les vois, les copains, ils ont tous des prothèses de hanche. Mais tu leur dis aujourd'hui à tous, faut pas y aller. Mais ils y vont quand même. C'est notre rêve de gosse.
Et regarde, Christophe, t'as bien mis 10 minutes toi aussi à sortir de ton lit. Bah, t'es toujours là, t'es toujours sur le tour. Allez, une secondes, petite respiration et on revient dans quelques instants.
Forêt, je suis revenu en pleine forme.
RMC, l'after tour. RMC, l'after tour.
Pierre-Yves Leroux.
C'est reparti pour la deuxième mi-temps de l'After Tour. On a évoqué la journée des Français, 6, 7, 8 au classement, la victoire de Mauro Schmidt. Et demain, Pogacar qui va continuer à s'amuser. Et pourquoi ? Parce que c'est le Markstein, c'est une grosse étape et on a le sentiment que ben, c'est un peu tranquille du côté de cette équipe UAE avec... bien, un programme qui lui convient parfaitement, Jérôme Pinault. Demain, c'est pour lui, il n'y a pas de suspense.
Il n'y a pas de suspense, je ne sais pas s'il n'y a pas de suspense. Il faudra de toute façon, évidemment, essayer de tenter des choses. Mais il est clair que lors de ses déclarations d'avant-course, d'aujourd'hui, il disait ouais, cette étape d'aujourd'hui, elle est étrange. Par contre, les deux prochaines seront beaucoup plus amusantes. Bon, déjà, quand Tadej Pogacar te dit amusante, tu peux commencer à serrer une fois les calepiers. Et puis, ce soir, sur le podium, après la cérémonie protocolaire, lorsqu'il a répondu à la presse internationale, il a dit, avec un petit sourire en coin, « Celle-ci est passée, vivement demain. Le Markstein est un bon souvenir. C'est une très belle étape, on va pouvoir s'amuser. » Quand lui dit ça, avec son sourire, on aurait pu rajouter un rire très strident, là, comme il y a comme dans les films d'horreur ou les dessins animés. Et ben là, je pense qu'effectivement, il va vouloir gagner cette étape. Il l'a déjà gagnée, cette étape au Markstein. Il va vouloir la regagner. Ça ne passe pas par la même endroit. Mais j'ai quand même l'impression que demain, les volontaires pour aller dans l'échappée, il y en aura peut-être un peu moins parce qu'ils vont se dire ils vont encore nous taper dessus. L'avantage et peut-être la chose positive pour les coureurs qui vont vouloir aller devant et essayer de jouer leur carte sur cette étape, c'est qu'aujourd'hui, Tim Wellens et McNulty ont laissé un peu de jus sur la route, quand même.
Il peut y avoir, alors, deux choses. La jurisprudence Tom Pidcock, c'est-à-dire qu'on laisse partir éventuellement une échappée avec des garçons qui ne sont pas si mal classés que ça. Et puis, deuxièmement, de course, dans la course. C'est-à-dire que Pogacar, il s'occupe en gros que de Vingegaard, de Ayuso et de Sexas. Et ça peut permettre justement à Lini Martinez, pourquoi pas, de partir et ouais, d'aller gagner l'étape.
Moi, je vois bien un scénario comme ça. C'est peut-être parce que je le souhaite. Je n'ai pas l'impression que Tadej Pogacar, demain, va vouloir aller gagner l'étape. Dimanche, oui, à Solaison. Demain, je ne suis pas sûr. Gégé l'a dit, il a eu des équipiers qui étaient à l'avant. Je ne sais pas, je pense qu'il y aura deux courses en une, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, si ça ne se passe pas comme ça, ils ne vont pas non plus chercher l'étape. Ils laissent l'échappée vraiment partir. Je pense qu'ils veulent vraiment tout mettre sur dimanche. Et là, parce que plateau de Solaison, tu peux vraiment assommer complètement le Tour de France une bonne fois pour toutes. Demain, j'y crois beaucoup moins. Par contre, je revois un scénario comme aujourd'hui. Déjà, il y aura un départ ultra costaud. Donc, pour reprendre l'échappée, ça va encore être il costaud dans le sens où le sprint intermédiaire est au bout de 12 km. Donc, oui. De nouveau, on va avoir une castagne entre les sprinteurs. Et ensuite,
et
ça part.
Et on est au pied du grand ballon.
Et on est au pied du grand ballon. Donc, ça sera forcément des costauds qui vont être à l'avant. Ça va rouler très vite jusqu'au sprint. Et ensuite, ça va être à la jambe que ça va partir. Eux, ils ne vont pas s'embêter hein, demain. Ils vont suivre le sprint. Ils vont arriver au pied. Ils vont se mettre toute l'équipe devant. Les plus costauds vont partir. Et ça sera très facile à tempérer. Mais je ne suis pas sûr qu'il va y aller chercher la victoire.
Alors, de temps en temps, il n'a pas envie d'aller la chercher, mais selon les circonstances de course, il se retrouve à 1 minute, 1 minute 10. Là, il se dit, attends, pourquoi je me priverais d'une victoire ? C'est ça que je redoute, en fait.
C'est que demain, on va être au sommet du premier col, au bout de 36 bornes. Autant vous dire que ce n'est pas les sprinteurs qui vont être échappés. Parmi les coureurs qui vont s'échapper, il y a des coureurs qui vont être placés au général. Et comme on a vu qu'aujourd'hui, ça y est, on est déjà dans la bataille du top 10, top 8, top 7, il y aura forcément des équipes qui vont vouloir aller rouler pour protéger leur top 5, top 6. Et lui, il va faire quoi ? Ils vont profiter de ça. Puis s'il y a mi-course, comme c'est une étape courte, il n'y a pas tant de retard que ça. Et Pogacar, pour lui, il a déjà gagné le tour. Le deuxième, il est trop loin. Et puis en plus, il a une marge. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il amuse ? Faire gagner son pote Del Toro ? On a vu le tour qu'il avait serré un peu le moteur.
Battre le record des 8.
Aller chercher les étapes, Maria, t'as raison. S'il veut jouer, il veut gagner des étapes. Et donc,
égaler le record de Merckx de 8
Il adore les records. Hein.
Il peut, sur un Tour de France. Ça serait incroyable.
Il peut être aidé par les autres équipes. Ça que je veux dire, c'est que c'est pas que lui qui va gérer l'étape de demain, oui, c'est les autres équipes.
On va écouter ce qu'en pense Mauro Gianetti dans cette équipe UAE pour savoir si Pogacar il a envie de s'amuser.
On arrive dans la grande montagne parce que jusqu'à maintenant on a eu une très belle étape, l'étape du Tourmalet, et puis dans le massif central une étape assez dure. Mais les longues montagnes, on en a vu une jusqu'à maintenant, donc c'est ce que tout le monde attend, et donc ça vient intéressant le Tour. Ça va être aussi intéressant de voir un peu tous les mouvements parce qu'il y a beaucoup de coureurs de haut classement qui se bagarrent pour le classement. Ça va être vraiment très intéressant.
Ça va devenir vraiment intéressant.
Ce que disait Jérôme tout à l'heure, on sent le petit sourire de Poggi, on sent le
tour commence.
De Mauro, là, tu sais, le Ramin Grobi qui se délecte à l'avance de manger les petites souris et les petits oiseaux.
C'est vrai que c'est un peu l'ambiance. C'est ça, dans ce peloton, c'est ce que tout le monde ressent aussi, Maria.
L'ambiance des UAE qui veut écraser tout, bien sûr. Et même ce qui commence à se dire, c'est qu'UAE choisit qui prend l'échappée, UAE choisit qui va avoir le maillot à poids, UAE choisit qui va gagner l'étape. Enfin, c'est un peu une dictature du peloton, clairement.
Et on l'a vu d'ailleurs, Jérôme Coppel, aujourd'hui, en début d'étape, ils sont sortis sur tout le monde.
Oui.
Tim Wellens, Nils Polit.
Ouais, alors ça c'est un peu incompréhensible pour moi parce qu'ils ont essayé de vraiment filtrer, puis d'un coup il y a eu 50 mecs à l'avant.
Pas 7.
Non.
Mais 50.
Ouais, voilà. Non, 7, il n'y a pas assez, on en laisse 50.
C'est mieux.
Non, mais ce qu'on a vu, il filtre, c'est sûr. Et c'est beaucoup ce qui ressort un peu du peloton, c'est que c'est un peu Tim Wellens qui fait vraiment le filtre, justement. C'est lui qui décide un peu qui part. Alors là, du coup, il ne pouvait plus filtrer, puisqu'il s'est mis carrément lui-même devant ce coup-ci. Donc,
c'était
encore mieux en filtrant. Mais oui, on répète toujours la même chose, mais les clés que ça soit la victoire d'étape, des scénarios, etc. De toute façon, c'est tout dans les mains du AE et de Tadej Pogacar, parce que s'ils veulent, ils peuvent gagner toutes les étapes de montagne, ils peuvent glisser des mecs dans l'échappée, ils contrôlent. En plus, avec les effets de classement général, etc., ils ont du soutien, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup roulé, finalement. Il y avait l'échappée, après ça a été Bahreïn, après ça a été Lidl Trek, ils n'ont pas beaucoup roulé derrière aujourd'hui. Bora, Red Bull Bora. Donc après, les circonstances de course, ça les aide aussi.
Et attention, demain, il y a une petite gourmandise pour finir. Je ne sais pas si tu es allé, Maria, voir ce col, le dernier col du Ten Hag, parce que le col du Hag, c'est, on dit, arrivé au Markstein, mais on passe par le col du Hag, qui est une piste cyclable à 12%. Voilà, c'est pas large, c'est un tas de fumier, c'est très difficile.
C'est un peu au-dessus du Markstein, en fait. On va redescendre.
Et on va redescendre pour aller au Markstein. Donc ça veut dire que quand bien même il y ait un groupe d'échappés qui a passé la journée à l'avant, il faudra bien 3-4 bonnes minutes au pied pour pouvoir espérer la victoire. À part aujourd'hui, vous avez vu, vous, des échappés qui prennent 4 minutes dans ce Tour de France ? Non. 1 minute 30, 2 minutes. À 1 minute 30 demain, après avoir passé la journée à l'avant, ça ne va pas suffire dans la montée du col du Hag avec la puissance de Tadej Pogacar et des autres. Donc, peut-être qu'on peut espérer un peu de suspense, mais j'ai l'impression quand même que le Slovène, demain, il va se la mettre dans la pocket.
Note petite rubrique habituelle, carton, on va voir qui sort de sa pochette, du vert, du jaune ou du rouge.
RMC, l'After Tour,
le carton.
Alors, autour de la table, qui sort le carton ? Allez, Jérôme Pinot.
On pourrait le sortir à deux, parce que aujourd'hui, on va sortir un carton rouge. Alors même s'il n'est pas rouge vif encore, il est déjà bien, bien rouge, bien passé orange. Contre toutes ces équipes qui roulent déjà à la 13e étape du Tour de France pour le top 7, le top 8, le top 10, le top 9, et qui ont filé un coup de main à l'équipe qui domine le Tour de France. Ils pignent tous, tout le monde pigne, parce que UAE écrase le Tour, parce que UAE est trop fort, parce que UAE file les échappées. On dit depuis le début, si on veut avoir du spectacle et espérer peut-être, pourquoi pas, mettre à mal cette équipe UAE, parce que Tadej est très fort, mais il a aussi le soutien de son équipe, fallait déjà commencer par ne jamais collaborer avec eux. Les laisser se débrouiller. Aujourd'hui, le maillot jaune est sur les épaules de Tadej Pogacar, avec plus de 3 minutes d'avance sur son second. Et qu'est-ce qu'on a fait au bout d'à peine 25-30 km de l'échappée, une fois que l'échappée était partie ? Eh bien, on a défendu la 10e place d'un coureur. Alors moi, je conçois les intérêts d'une équipe. Mais tout à l'heure, Mauro Gianetti disait on n'a pas encore commencé les longs cols. On n'a pas encore vraiment commencé le tour, la haute montagne dans le tour. Laissons les coureurs comme Pidcock prendre un peu de temps. Et quand on a un leader comme Lenny Martinez, comme Remco Evenepoel et Florian Lipovic, comme Juan Ayuso, podium d'une Vuelta, et Scale Moseux, laissons-les tranquilles, attaquons, roulons, tentons des choses dans la haute montagne. N'allons pas rouler sur un top pitcock qui est quand même limité en montagne. Alors, on affiche partout sa supériorité, à commencer par Ayuso, qui se voit sur le podium. Mais la panique à bord, on roule derrière un garçon qui a passé de la 10e à la 9e. Alors, il est 5e ce soir, mais il a passé toute la journée devant. Pitcock, s'il y a la guerre dans la haute montagne et dans deux fois l'Alpe d'Huez, mais il va péter. S'il pète pas, bah c'est que tu n'avais pas les moyens. Et donc, tu vas aussi regretter d'avoir roulé. Donc, si tu commences à la 13e étape à compter tes petits poids et savoir ce que tu vas mettre, si tu vas faire combien de points UCI en mettant mes deux coureurs dans le top 10, bah, je suis désolé. Il faut arrêter de pigner que les UAE vous tapent dessus toute la journée.
Et tu sais l'enseignement que ça donne, ça ? Qui n'a pas roulé derrière Tom Pitcock ? Décathlon, CMA-CGM,
qui
n'avait personne dans l'échappée. Visma Liesebike, qui avait Campanert, c'est un autre coureur qu'on sautait. Eux, ils n'ont pas peur de Tom Pitcock. Mais les autres, et tout Remco Evenepoel qui sont, tout Ayuso,
ça veut dire qu'ils ont peur.
Mais ils ont peur de Tom Pitcock.
Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas supérieurs à lui.
Ils ne se sentent pas supérieurs. Paul Sexa, c'est son équipe, ils s'en fichent de Tom Pitcock. Ils vont voir dans les grosses étapes ce que ça va donner. Ça sera la jambe. Il n'est peut-être pas meilleur Sexa que Pitcock. Mais ils le verront sur les grosses étapes, dans le Money Time, là où ça va jouer. Par contre, les autres, ils ne sont pas sûrs de leur bille, ils ne sont pas sûrs de leur canette. Sinon, tu ne vas pas rouler comme ça. Pour gagner quoi ? Rien en plus.
Ils ont perdu du temps.
Ils ont perdu du temps.
Il y avait 7 minutes quand la Bahreïn prend.
Non, mais moi, je vais dire un truc.
Pas de Bahreïn.
Ouais, voilà, exactement.
C'est plus Lidl Trek et Red Bull Bora. Qu'est-ce que tu t'en fiches de Tom Pitcock si tu es sûr de toi ? Tu ne vas pas rouler derrière.
Alors qu'à ce moment-là, il laisse les UAE rouler, se fatiguer encore un petit peu. Et puis ils disent, bah, nous on attend. Hein. Même si Pogacar perd son maillot, c'est pas très grave.
Bien sûr, et même tu les laisses. Alors déjà ça, et puis si vraiment tu as peur de Pitcock ou quoi, bah, qu'est-ce qui empêchait Remco Evenepoel ou je sais pas quel autre d'attaquer dans le ballon d'Alsace derrière, voire même dans la descente, voire même dans la vallée derrière. Mais personne n'a rien tenté derrière. Moi je comprends pas que ces grosses équipes avec de tels coureurs qui ont déjà prouvé des choses sur les grands tours, Remco en a déjà gagné un, Lipovic a déjà fait podium du tour et Ayuso podium de la Vuelta. Mais Tom Pitcock aussi a déjà fait podium de la Vuelta. Mais comme a dit Gégé, il s'est fait un rallye aujourd'hui. On a vu ses limites un peu en haute montagne.
Mais il a montré ses limites déjà dans le Tourmalet. Et il ne va pas progresser. C'est-à-dire que si les gros se mettent sur la tronche, Tom Pitcock est 8e, 9e. Et c'est sa place. Et en début d'étape, les gros ont commencé à essayer de se glisser dans les échappées, ces grosses équipes-là. Et ils ont fait des gestes d'énervement. Ils ont pesté contre le comportement du AE. Bah, continuez, les mecs. Continuez à préserver les équipiers de Tadej. Vous allez vous faire taper dessus jusqu'à Paris.
C'était le carton rouge des GG. C'était un carton rouge commun.
À deux.
Compris, à deux. Et bien, vous évoquiez justement l'équipe Décathlon CMA-CGM qui n'a pas roulé. Paul Sexas qui est resté au chaud. Léna Marjac est en notre compagnie. Léna, bonsoir.
Bonsoir.
Veillée d'armes chez Décathlon CMA-CGM. Comme dans d'autres équipes, on sait que cette étape, elle est difficile demain. Quelle est l'ambiance Sérénité, en tout cas, on le disait à l'instant, ils ont couru intelligemment aujourd'hui.
Oui, c'est ça. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de rester au chaud, entre guillemets, même si ça a couru vite. Hein, donc, ça n'a pas été si facile que ça, quand même, pour tout le monde. Mais l'objectif, c'était effectivement de protéger déjà Paul, de rester au contact de ceux qui sont devant Paul au classement général. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, on a vu hein, Aurélien Paré-Peintre être assez loin. C'était justement l'objectif. Et vous allez écouter Nicolas Prodhomme qui parle de tout ça aujourd'hui, justement, à notre micro après l'arrivée de l'étape.
On a reconnu avec Paul, donc on sait que ça va être des étapes très dures. Et bon, et on a reconnu, mais rien qu'à regarder sur le profil, on sait que ça va être dur et on espère des belles choses. Il y a quand même une belle fatigue qui s'est installée dans le peloton, donc tout le monde est fatigué. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on n'a rien fait, mais ça va être dur les deux jours. Vous avez sûrement vu qu'Aurel, il ne termine pas dans le premier groupe avec nous, mais c'était voulu. Du coup, l'EDS joue bien là-dessus pour manager les forces et la récup de chacun.
Voilà, vous voulez l'entendre, hein. Aurel, c'est donc Aurélien Paré-Peintre qu'on a ménagé. On essaye de ménager les efforts de tout le monde parce que effectivement demain et dimanche seront des étapes très très dures, très pièges aussi parce que le classement général peut être chamboulé. C'est là où on va voir si Paul Sexas a les armes pour aller vers l'ambition de cette équipe Décathlon CMA-CGM, c'est-à-dire cette équipe de France.
C'est un peu notre équipe de France là.
Donc les ambitions de l'équipe Décathlon CMA-CGM d'aller viser le classement général, c'est-à-dire on espère le plus haut possible. D'ailleurs, on a posé la question à Nicolas Prodhomme tout à l'heure. On lui a dit, est-ce que ce podium, on pourrait l'imaginer ? Il a dit, j'ai un petit chiffre en tête.
Je lui ai demandé lequel, il m'a dit non, je vous le donnerai plus.
Toujours pas, hein, ils veulent pas lâcher.
Ils veulent pas dire,
Les chiffres, c'est bien de 0 à 9, je sais jamais. Et les nombres, c'est ça.
Non, mais toi,
il aurait dit un nombre, ça aurait été différent.
Oui, ouais. Là, il a dit un chiffre.
Ouais. Ouais. Bon. Vous y croyez, on est serein, on le disait tout à l'heure.
C'est Nena qui est la mieux placée, puisqu'elle elle vit à leur côté, mais j'ai l'impression que
elle
c'est...
Elle passe les musettes.
Passe les musettes,
ouais. Ah oui, mais c'est top, parce que ça nous permet aussi de savoir comment ils abordent ce tour. Et j'ai l'impression, et tu peux peut-être confirmer, Nena, que depuis le départ, ça se détend.
Ça,
on
vrai.
Se détend, on est un peu plus cool, on est moins stressé, on est beaucoup plus sûr de la force du collectif et certainement de la santé de Paul Seixas. On l'a pas vu, jamais vu en difficulté, et on avait une grosse interrogation, c'est il a jamais fait 3 semaines. Alors venez plus me dire maintenant qu'est-ce que ça va donner la 3e semaine, parce qu'au bout de 15 jours, c'est tout le monde au même niveau. Hein. Et puis je peux vous dire que la dernière semaine, c'est encore pire, c'est que c'est même quand tu es largué, tu sais à peu près quand tu vas péter parce que tu es toujours avec les mêmes. Tu es dans la roue du même mec, tu lèves la tête, tu dis ah ben c'est encore lui. Ça reste à sa place. En général, dans ces cas-là, ça reste à sa place, sauf maladie, sauf problème. Donc là, maintenant, on rentre dans la course, on rentre dans la deuxième partie de course. On avait eu quelques mots de Julien Jour au début du tour qui disait on va passer d'une phase d'observation à éventuellement une phase d'action. Ouais. Et celle, le week-end qui vient, j'ai quand même l'impression qu'il ressemblerait à un terrain pour agir.
S'ils sont sereins, Jérôme, c'est qu'ils ont des données physiques qui leur permettent de croire que tout va bien, qu'il n'a pas perdu, je ne sais pas, moi, certains éléments vitaux.
Il est encore en vie, tout va bien.
Non, mais perte de magnésium, perte de trucs. Il y a tellement de choses, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas médecin, je ne comprends rien là-dedans, mais toi, tu connais mieux que moi.
Non, mais bien sûr, alors, ils ont déjà les données de puissance, ça, c'est une chose. Ils ont les sensations que Paul va donner, parce que c'est pas que des machines et des robots non plus. Maintenant, ils ont tous ces bracelets connectés pour gérer le sommeil. Ils voient aussi la récupération. Ils voient, bien sûr, hydratation, nutrition, etc. Mais le vrai marqueur, c'est souvent ton leader, comment il sent, ses sensations, et ensuite l'équipe
autour. C'est uniquement sur les sensations. Il y a quelques données, mais c'est des sensations.
Non, mais il y a beaucoup de données. Il y a les données, tu vois, tu connais les valeurs de puissance de ton coureur, tu regardes après X jours de course, quand il y a la grosse bagarre, s'il garde les mêmes valeurs de puissance que quand il est frais, etc. Ça te permet de voir s'il y a une déperdition ou pas. Les trucs de sommeil, ça c'est quand même très important, la qualité du sommeil, le score de sommeil, on appelle ça comme ça, s'il a du sommeil profond, etc. etc. Et ensuite, c'est plutôt une idée générale de l'équipe. Typiquement, Richie Tello, tu sens qu'il va de mieux en mieux. Aurélien Paré-Pin, tu sens qu'il va de mieux en mieux. Même si, comme l'a dit Léna, aujourd'hui, il s'est volontairement laissé distancer.
Ça, c'est très futé,
c'est très bien. Mais tu sens que toute l'équipe, tu as l'impression que toute l'équipe, elle monte un peu en puissance. Pas que Paul Seixas. Paul Seixas, il a toujours été bien, mais tu sens qu'ils montent tous en puissance. Et ça, c'est un très bon signe pour la suite.
Ouais. Il y a eu une victoire d'étape, il aurait pu en avoir plus, mais il y en a déjà une. Alors ça, c'est aussi un point positif avec
sauvé,
le groupe Sprinter qui peut se mettre éventuellement à disposition. S'il y a un moment, il y a un problème, on a pris 20 secondes, on est un peu en retard et on peut aider à rentrer. Une bonne journée pour Paul Seixas demain soir, c'est quoi? Faut être au même temps, parce qu'on rappelle au classement général, il est à 31 secondes seulement derrière Remco Evenepoel qui est 3e. Il faut être là, toujours là demain, ou avoir gagné du temps, c'est ça?
Oui, il faut avoir tapé Ayuso et Del Toro demain déjà. Pourquoi pas prendre le maillot blanc demain? Il est pas si
bon, ce maillot blanc. Il y a 29 secondes.
Une bonne journée, c'est pas perdre de temps sur eux. Une très bonne, c'est les distancer. Et une excellente, c'est d'aller s'imposer là-haut.
Voilà. Oui, bien sûr.
Et pour moi, la meilleure des nouvelles serait que sans avoir à entrer en action, certains perdent du temps sur lui. Quand on voit ce qui s'est passé au Lioran, je ne serais pas surpris qu'il y ait quelques coureurs qui soient un peu en difficulté, qui couinent un peu dans le col de Hague là, vers le Markstein, notamment Remco Evenepoel, qui n'aime pas les montées très raides, qui a eu du mal vers le Lioran. Donc je ne serais pas surpris que Remco demain perde un peu de temps et que Paul en gagne. Quand on gagne un petit peu chaque jour, tu vas finir par être 3e du tour. Hein.
Est-ce qu'on peut imaginer que Remco perde du temps, que Pitcock perde du temps, que Del Toro perde du temps par rapport à ce qu'il a montré l'autre jour? Cette étape, elle peut correspondre à l'Hippowitz.
Demain, l'Hippolypo, ça, la montée vers le Markstein, les montées raides comme ça, comme il a l'habitude, avec le cœur dans la boîte à gants parce qu'il vient du biathlon et qu'on fait tout au taquet, avec des petits développements. Et il est très très bon, il a une position très avancée, il aime ça, monter assis. On ne peut pas trop se mettre en danseuse dans ce genre de pente. Donc, depuis le début, on le dit que l'élément qui va être le poil à gratter du podium, c'est est-ce qu'on va avoir du grand Lipovitz? Est-ce qu'on va avoir du Lipovitz moyen et demain, on va voir.
Jérôme Coppel, est-ce qu'on peut imaginer, alors, s'il y a deux courses, hein, on peut imaginer qu'il y ait des échappés qui l'emportent, mais entre les leaders, un Pogacar au-dessus, un Vingegaard qui perd un petit peu de temps, derrière un groupe à trois avec Lipovitz, Ayuso et Sexas, et puis les autres un peu derrière. Ça peut être la formule ?
Ça peut être ça, ouais, ça peut être tout à fait ça. Moi, j'espère que demain, Paul Sexas, je suis un peu rêveur, donc j'espère que demain, Paul Sexas ne va pas trop bouger, va suivre, ne va pas perdre de temps.
Pour attendre après-demain.
Pour attendre après-demain, sur une montée qu'il connaît parfaitement et sur une montée où tu peux vraiment faire des écarts. Par contre, et pas que la dernière montée d'ailleurs, les montées d'avant, tu peux déjà faire beaucoup de dégâts. Donc, mais oui, le scénario que tu donnes, c'est certainement celui-ci qui va se passer d'ailleurs. Mais j'ai pas envie qu'il en mette encore trop demain pour deux raisons. Alors déjà parce qu'il arrive chez lui au plateau de Solaison qu'il connaît très bien. Ensuite, il y a la journée de repos et il y a le chrono. S'il en met beaucoup demain, il va devoir en remettre beaucoup dimanche parce que dimanche, forcément, il va y avoir la castagne et certainement que Pogacar voudra cette fois gagner au plateau de Solaison. Ensuite, journée de récup, chrono, etc., etc. Donc, je pense qu'il doit encore s'économiser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais essayer d'en garder un petit peu encore demain et vraiment tout mettre dimanche.
Bon, Elena nous fera le rapport demain soir de cette première journée importante, week-end très important. Merci, Elena.
Surtout que Paul Sexas parlera demain soir.
Ah, ça y est, c'est écrit, c'est le scoop.
Demain soir et dimanche soir.
Ah, deux soirs de suite. Ça promet.
Normalement, si tout se passe bien.
Si tout se passe bien, ce qu'on souhaite évidemment.
J'espère qu'il ne va pas perdre la langue quand même.
Le leader français. On entre dans les dernières minutes de l'After Tour. Pour vous, messieurs, Jérôme Coppel et Jérôme Pinault, les auditeurs. Et ce soir, c'est Patrick qui nous appelle. Bonsoir Patrick.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Patrick.
Salut Patrick.
Alors, eh bien, écoute, je te laisse avec Jérôme Pinault et Jérôme Coppel. Je ne sais pas sur quel thème tu veux intervenir.
Alors moi, j'avais plusieurs thèmes que j'aimerais aborder. De un, ça serait de revoir les, par exemple, les formes. Je trouve que par exemple l'étape d'aujourd'hui, elle était hyper intéressante, sauf que en fait, on a du mal à faire la part soit aux sprinteurs, soit aux baroudeurs un peu. Et donc du coup, je me disais est-ce qu'il n'existerait pas une formule où en fait on sort les étapes pleines où tout le monde s'ennuie, en fait, et on crée un nouveau truc à une sorte de circuit pour les sprinteurs.
Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu deux courses.
Il y a eu deux courses. Il y a eu la première course pour le maillot vert, et là, leur course s'arrêtait au premier sprint intermédiaire. Et après, en fait, finalement, il y a la vraie course, j'ai envie de dire, entre guillemets, qui a commencé, c'est bon, avec cette ascension, etc. Mais du coup, on essaie à chaque fois de... En fait, on veut que ça soit trop dur pour les sprinteurs. Enfin, on veut durcir pour pas avoir une étape totalement de plaine et une course cadenassée. On veut mettre des difficultés, mais en fait, j'ai l'impression que du coup, en fait, personne n'y trouve son lot. À la fois le maillot
à poids devient.
Aujourd'hui, c'était bien. Après, l'étape était propice à ça. Mais je me dis quel futur donner aux sprinteurs si c'est pour arrêter dès aujourd'hui, en fait, se dire bon, en fait, je rentre parce que j'ai plus d'étape pour moi. Si ce n'est alors avant il y avait encore les Champs-Élysées qui était un peu l'étape prestige, mais qui aujourd'hui avec l'arrivée à Montmartre etc commence à, en fait je me dis est-ce qu'il faudrait pas créer un autre truc, j'allais dire un peu un truc stupide, mais un peu comme avant les formats championnats du monde avec des séances qui durent 2-3 jours sur plusieurs sur des arrivées plates, et on se dit ben voilà 20 km et ils font leur pare-balles avec une idée de maillot vert ou de classement un peu comme un classement UCI. Parce que là, en fait, sinon on se retrouve avec des courses qui sont soit cadenassées, des courses sur le plat. Alors aujourd'hui c'est super, on a une grosse échappée. Alors,
hier, on a eu Baston dans le final aussi, Patrick. Hier, on a eu une étape de plaine, mais ça a un peu bataillé dans le final.
Le problème, c'est que le Tour de France, tu dois en donner à tout le monde. Tu ne peux pas le réserver aux puncheurs, aux grimpeurs. Tu peux pas, toi, tout le monde doit avoir un bout du gâteau à manger. Et c'est ce que ASO ont essayé de faire cette année en mettant, alors ça sera plus le cas demain par exemple, mais en mettant le sprint intermédiaire avant les grosses difficultés pour qu'il y ait de la castagne et que ça lance la course jusqu'au sprint intermédiaire. Puisqu'avant, rappelle-toi, Peter Sagan, qui était le meilleur grimpeur des sprinteurs, lui, il arrivait toujours à se glisser dans l'échappée. arrivée, il faisait le plein de points au sprint intermédiaire et le classement maillot vert avait moins d'intérêt. Et là, avec la formule qu'ils ont trouvée, bah, on a quand même encore plusieurs sprinteurs dans le jeu. Et Mats Pedersen, qui est le meilleur grimpeur des sprinteurs sur ce tour-là, bah, il n'a pas tant d'avance que ça. Il a 40 points d'avance finalement. Et en tout cas, ce soir, maintenant, à l'heure où on se parle, il n'y a pas de sprinteurs qui ont abandonné parce qu'ils n'ont plus d'étape qui leur convient. Même Tim Merlier est toujours dans le tour pour l'instant. Et ça revient un peu à la même chose que ce qu'on disait à propos de Dorian Godon. C'est que même les sprinteurs n'ont pas envie d'abandonner le tour, même s'il n'y a plus cette carotte des Champs-Élysées à l'arrivée.
Ouais, et c'est justement là, peut-être, Patrick, où on peut se rejoindre. C'est qu'on pourrait, sans raboter la butte Montmartre et ne pas y passer, on pourrait la mettre plutôt à 30, 40 km de l'arrivée, ce qui pourrait permettre aux punchers d'attaquer dans cette butte Montmartre et de tenter des choses, mais quand même de ne pas condamner les sprinteurs à gagner sur les champs et donc de les maintenir sous pression et de les maintenir avec l'envie d'aller jusqu'à Paris pour aller gagner sur les champs.
Sachant que je trouve qu'on rentre dans un cyclisme où on est de plus en plus calculateur, notamment des points de vue des équipes, et donc du coup on a des étapes où en fait les équipes elles tentent même pas, alors que en fait elles vont cibler vraiment certaines étapes, mais il y a des étapes, notamment l'étape de sprinter, où en fait on a l'impression qu'elles se délaissent totalement, qu'ils essayent même pas la possibilité d'eux. Moi je pourrais citer, enfin il y a l'équipe Astana par exemple qu'on voit peu,
elle a fait deux aujourd'hui.
Bah, elle a fait deux aujourd'hui, mais en fait, moi, j'ai à part l'avoir vu aujourd'hui, et j'ai jamais vu depuis le début du tour. Et en fait, il y a plein de.
C'est normal, ils n'ont pas une équipe pour
non,
ça.
Mais Canter, il fait.
Et Max Canter a fait les sprints,
il fait 3 top 10.
Mais ils vont avoir des coureurs dans les échappées à partir d'aujourd'hui avec leurs Colombiens. Avec. C'est. Je pense qu'il faut aussi. C'est beaucoup de la façon dont on regarde le tour. Oui, Patrick, les équipes calculent de plus en plus. Oui, les courses sont de plus en plus cadenassées. Je te rejoins. Mais il faut savoir la lire avec le côté plaisir. Et on ne peut pas dire qu'on s'est ennuyé depuis de part de ce tour. Il y a quand même eu de la castagne. Alors effectivement, quand il y a un coureur qui domine, bah on s'ennuie. Parce que même dans la haute montagne, c'est presque là où on s'ennuie le plus. Par rapport à une étape comme aujourd'hui, qui était peut-être moins attrayante sur le papier, on a quand même pris plus de plaisir quand on aime la castagne sur le vélo que l'autre jour au Tourmalet, quand Pogacar a fait son solo. Mais c'est ainsi, on est dans un sport pour hommes forts, le parcours est difficile et on a un garçon qui est au-dessus, donc il faut l'accepter aussi parfois.
Mais moi qui avais une autre question... Ok, moi j'avais une question, alors peut-être je vous la laisse parce que peut-être y répondre, mais voilà, il y a eu l'époque Bernardino. Moi, depuis que, en fait, je regarde le cyclisme, j'ai toujours connu une équipe ou un coureur qui domine tout le monde. Moi, j'ai connu les années Armstrong. Ensuite, il y a eu Contador pendant 2-3 années. Ensuite est arrivé Froome pendant 5 ans. Et en fait, je me demande, vous, avant, il y avait les Indurain, il y avait les Bernardino. Comment, en fait, c'était vécu du point de vue du spectateur? Est-ce qu'on a, j'ai l'impression, en fait, parce que nous, aujourd'hui, on a cette réflexion de oui, Pogacar, les Crasto, etc. Mais est-ce qu'à l'époque, on avait exactement les mêmes sensations? Est-ce que c'était totalement différent dans l'approche, dans la manière de voir le cyclisme? Ou est-ce que c'est comme, en fait, j'ai l'impression que c'est un éternel recommencement? C'est dans l'essence même du cyclisme qu'il y aura toujours un mec.
Pardon, oui. Vas-y Patrick, vas-y.
Non mais du coup j'ai l'impression qu'en fait c'est un peu la nature de ce sport qui est un peu comme ça, et que donc du coup en fait Pogacar qui l'écrase tout, c'est, enfin moi aujourd'hui on me parle de Pogacar, moi je pourrais te dire que les années Froome, en quoi étaient si différents?
En rien du tout, je suis d'accord avec toi. Moi j'ai évoqué ce sujet là il y a deux jours déjà à la question que tu me poses. Si on parle au public français, je vais te dire, la seule période qu'ils ont aimée, c'est quand Laurent Fignon et Bernard Hinault gagnaient le Tour de France. Même quand ils dominaient, Bernard, les gens aimaient ça, parce que c'était un Français. Et si Tadej Pogacar s'arrête un peu plus tôt que prévu, ce qui nous ravirait, eh bien, Paul Sexa, s'il prend le flambeau et qu'il en gagne 5-6 de suite, les gens trouveront ça génial que le garçon domine. C'est comme ça, on est français, on aime la domination de nos coureurs, mais pas celle des autres.
Merci Patrick, on va terminer cette émission, merci à toi et on se retrouve peut-être avant la fin de ce Tour de France au cœur de cet After Tour. 30 secondes encore avec vous messieurs pour votre pronostic de demain, cette belle étape, le Markstein. Jérôme Coppel.
Moi, à part au chrono, je pars toujours sur le même maintenant, j'en ai marre. Carapace, il s'est foiré aujourd'hui, on va y aller demain, je crois en l'échapper moi demain.
Très bien. Richard Carapaz, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, qui a pu respirer un petit peu. Jérôme Pinault.
Valentin Paré-Peintre. Première victoire.
La victoire française, elle est pour demain. On l'espère, évidemment. On se retrouve pour l'After Tour sur la radio digitale 100% route. Et puis, à partir de demain, donc ce samedi, on retrouvera aussi cet After Tour sur RMC entre 19h et 20h. Et sur RMC, on se retrouve bien sûr pour l'intégral Tour à partir de 14h avec cette belle étape en direction du Markstein. À demain. Ciao.
RMC, l'After Tour.